Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, les vendanges achevées, quelques précisions de ce nouveau millésime 2019 en compagnie de Dominique Piron, président d'Interbeaujolais, puis l'Académie de Villefranche à l'initiative d'un colloque intitulé « Le textile, l'autre richesse du Beaujolais, un pan du patrimoine économique de la région » que nous explique René Boncampin, membre de l'Académie et également auteur de l'ouvrage « Vers la ville nouvelle, Villefranche-sur-Saône ». Et pour conclure, Cordes en Calade fête ses 30 ans, l'orchestre en concert en décembre prochain. Nous recevons Isabelle Vess, directrice musicale de Cordes en Calade et de Cécile Joly, membre de Cordes en Calade. Calade, le journal. C'est une avancée majeure, nous dit dans un article Le Monde, pour mieux protéger ceux qui avertissent l'opinion publique d'un scandale financier, sanitaire ou environnemental. Les ministres de l'Union européenne ont adopté lundi 7 octobre une directive permettant de protéger les lanceurs d'alerte qui pourront jouer leur rôle sans crainte de représailles. Le rôle de ces whistleblowers est à nouveau au cœur de l'actualité aux États-Unis, où un deuxième lanceur d'alerte vient de sortir du silence pour livrer des informations sur l'affaire ukrainienne à l'origine d'une procédure de destitution contre Donald Trump. Réunis à Luxembourg, les ministres de la Justice ont avalisé ces nouvelles règles qui doivent être transposées par les États membres dans leur droit national d'ici à 2 ans. Personne ne devrait risquer sa réputation ou son emploi pour avoir dénoncé des comportements illégaux, a souligné la ministre finlandaise de la Justice, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne, cité dans un communiqué. Des Panama Papers à Cambridge Analytica, de LuxLeaks au Dieselgate, une série de scandales ont été dévoilés par ces lanceurs d'alerte soucieux de mettre au jour un délit ou une menace pour l'intérêt général. Désormais, leur protection couvre un large éventail de secteurs, notamment les marchés publics, les services financiers, le blanchiment de capitaux, la sécurité des produits et des transports, la sûreté nucléaire, la santé publique, la protection des consommateurs et la protection des données. Le texte prévoit l'obligation de mettre en place des canaux de signalement efficaces dans les entreprises de plus de 50 employés ou les villes de plus de 10 000 habitants. Les vendanges achevées dans les 12 appellations du Beaujolais, une année climatique qui n'aura pas été de tout repos pour les vignerons. Le millésime, certes modeste en quantité, mais intéressant en qualité, nous promet Dominique Piron, président d'Interbeaujolais. Il est joint par téléphone.
Ouais, écoutez, l'année a été un peu tendue par la météo, la sécheresse, de la grêle et de tout. Et finalement, les vendanges se sont passées sous de bonnes conditions. Ça a été vraiment superbe. On a juste eu un petit peu de pluie comme il fallait sur la fin août pour faire une maturité complète. Et puis le temps des vendanges a été un peu de rêve puisqu'il a fait beau. Alors dans la moitié, globalement, un peu à cause de la sécheresse, du froid au printemps, un peu de gelée, on voyait une récolte qui arrivait petite. Par contre, à la sortie, là, dans la moitié nord du Beaujolais, les villages et les crues, c'est plutôt mieux qu'on ne pensait en quantité. Puis par contre, la partie sud qui a subi la grêle au mois d'août, là, c'est plutôt un peu moins qu'on ne pensait, quoi. C'est une demi-récolte. Finalement, des raisins très qualitatifs qui étaient très bons à manger, tout fruité, tout sympa. Et les vins vont ressembler un petit peu à ça. Donc des vins avec du fruit, une bonne matière. C'est un beau millésime. Un beau millésime.
Est-ce qu'il en manquera pour l'exportation ?
Je pense pas, non. La récolte va pas être très grosse, mais il reste quelques reliquats de la récolte 2018. Donc globalement, je pense que l'un doit compenser l'autre.
Vous l'avez goûté, j'imagine ?
Tous les jours.
Tous les jours avant les primeurs. Qu'en pensez-vous ?
Alors, c'est des vins beaucoup. Ce sont des vins avec du fruit. Du fruit et suffisamment de tanin pour faire l'ossature. Les vins vont plaire. Ça, il n'y a pas de problème. Les vins vont plaire. Les degrés ne sont pas trop forts. Donc, ça reste des vins, on va dire, faciles à consommer, qui ne seront pas lourds. Et ça, ça correspond à la définition des vins du Beaujolais. Des vins à consommer, hein, pas des vins pour réfléchir.
Est-ce que vous partez gagnant sur les marchés, Dominique Piron ? C'est toujours un peu le bas qui blesse.
Ouais, les marchés fonctionnent plutôt pas mal quand même. Après, ça dépend ce qu'on parle comme marché. Vous avez un Beaujolais à deux vitesses. Il y a des gens qui ont des clients qui fonctionnent très bien et ceux qui n'en ont pas qui fonctionnent plus difficilement. Mais globalement, là, sur les 6 premiers mois de l'année, par exemple à l'export, de janvier à juin, ce sont les chiffres des douanes, la France globalement perd 2,2 points de marge, de fonctionnement, de pourcentage. Mais il y a 3 régions en France qui sortent du lot, la Loire avec plus 4,5, la Bourgogne avec plus 5,5 et le Beaujolais avec plus 10,5 de vente. Globalement, le Beaujolais sur les marchés aujourd'hui se tient bien, s'améliore. En fait, ces vins rouges, pas trop compliqués, pas trop tanniques, pas trop boisés, correspondent au principal de la consommation aujourd'hui. Qu'il soit de la Loire, de Bourgogne ou du Beaujolais, ça fonctionne. En plus, le Beaujolais, il nous restait un capital émotion quand même assez fort et aujourd'hui on a l'impression que ça repart assez bien.
La récolte 2019 va être un atout fort pour continuer à séduire les consommateurs, confie Dominique Piron, président d'Interbeaujolais, l'interprofession des vins du Beaujolais. Prochain rendez-vous donc le jeudi 21 novembre où les Beaujolais de fête révéleront les premières tendances du millésime 2019. Puis, en patientant un peu, les domaines et maisons dévoileront de leur cave, leur Beaujolais. L'Académie de Villefranche à l'initiative d'un colloque intitulé « Le textile, l'autre richesse du Beaujolais », un pan du patrimoine économique que fait revivre ces journées consacrées à ce moment industriel de la vie de Villefranche et du Beaujolais, les 10, 11 et 12 octobre prochains. René Boncompain est membre de l'Académie et auteur de l'ouvrage « Vers la ville nouvelle, Villefranche-sur-Saône », paru aux éditions Dupoutan, il nous fait revivre la mémoire d'un temps presque révolu.
Donc je m'appelle René Boncompain et je suis membre de l'Académie. Et c'est à ce titre que donc j'ai coordonné le colloque sur le textile, l'autre richesse du Beaujolais.
Très bien, qui aura lieu prochainement. Et nous allons plus particulièrement rentrer dans cette fabuleuse histoire du monde du textile, puisque forcément, Villefranche, la Calade, et certainement un petit peu en débordant le Beaujolais, ça a été une forte économie, en tous les cas, un bassin textile, c'est comme ça qu'on peut le dire?
Voilà, c'est comme ça. En fait, dès le XIVe siècle, il est fait mention d'un marché aux toiles à Villefranche. Les premiers métiers à tisser sont apparus vers le XVIe siècle. D'abord, on y tisse le chanvre et le lin, surtout le chanvre d'ailleurs.
Qu'on cultive, j'imagine, c'est
Pardon.
Ça? Qu'on cultive.
On cultive, évidemment. Il y a des chanvrières qui s'appellent des chenevières plutôt, d'ailleurs. Et donc, dès 1620, on commence à importer le coton et à le tisser, à apprendre à le tisser à Villefranche. Parallèlement, il y a des blancheries, on appelait ça blancherie à l'époque, ou des blanchisseries qui se créent le long du Morgon, qui est la rivière nourricière et vivrière de Villefranche. Et donc le long des rivières du Beaujolais en général, mais surtout le Morgon. Enfin, vers 1756, les Suisses, qui étaient très en avance sur la chose, viennent former les artisans du Beaujolais. Notamment Humblot, qui est bien connu sur Villefranche, ouvre une blanchisserie à Béligny, puis à Chervinges, plus tard. Il y a eu le tissu, les Indiennes aussi. Donc le début du 19e siècle voit disparaître l'industrie des Indiennes, qui sont des tissus imprimés qui étaient évidemment à l'origine qui venaient des Indes. Et qui avait connu donc un certain succès précédemment. C'était les Indes, quoi, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui sur les saris des Indiennes. Tout le monde ne devait pas s'habiller avec ça, c'était les belles dames, j'imagine. Hein. Enfin, voilà. Et c'était imprimé à partir de plaques de bois sur lesquelles, qui étaient ancrées, et plus tard avec des machines rotatives. On peut citer aussi qu'en 1802, une halle aux toiles a été créée à Villefranche sur l'emplacement du couvent des Ursulines. L'Éden qui vient de fermer, le cinéma Éden, c'était là le marché aux toiles. D'ailleurs, le bâtiment existe encore, il suffit de passer derrière, à l'est, et on voit encore les grilles du bâtiment.
Et la production, plus particulièrement de la localité, c'était des toiles épaisses, je crois, en plus dans le...
Oui.
Pour les corporations, peut-être hein,
voilà, c'était des toiles assez frustes, hein, c'était de la crotonne, du coutil, et qui n'étaient pas des toiles de très bonne qualité. C'est pour ça que petit à petit, les gens ont été acheter ces toiles-là dans les Vosges, qui étaient des tissus de meilleure qualité. Et donc l'importation s'est faite à partir des Vosges. Et après, donc, le blanchissement et la teinture sont apparus sur Villefranche.
René Boncompain est l'auteur de « Vers la ville nouvelle, Villefranche-sur-Saône », paru aux éditions Dupoutan, que vous pouvez retrouver dans vos librairies locales. Ne manquez pas également le colloque consacré à ce patrimoine économique, le textile. Une projection de film le jeudi 10 octobre, 400 coups. Prendre le large, de Gaël Morel, avec Sandrine Bonner. suivi d'une discussion, le vendredi 11 octobre en après-midi et samedi 12 octobre, toute la journée à l'auditorium. 9 conférences et projections sur le textile en Beaujolais vous sera proposée, mais également une exposition sur le textile d'hier à aujourd'hui, salle des échevins, à ne pas manquer. Et pour conclure, Cork d'Encalade fête ses 30 ans. L'orchestre attaché au conservatoire de l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône est sans nul doute l'harmonie de musiciens élèves de 3e cycle et de musiciens accomplis, qui poursuivent leur rencontre artistique ensemble, talentueux, en offrant une gamme diversifiée. L'orchestre en concert, le samedi 21 décembre à l'atelier. Nous recevons Isabelle Vess, directrice musicale de Cork d'Encalade. Elle est accompagnée de Cécile Joly, membre de Cork d'Encalade.
30 ans d'existence pour cet orchestre qui est vraiment implanté sur ce territoire de Villefranche-Beaujolais-Saône depuis sa création. Il a donc bien évolué. C'est un orchestre associatif, mais qui a aussi comme particularité d'être très étroitement lié au conservatoire de l'agglomération, puisque c'est un orchestre qui est obligatoire pour les élèves de 3e cycle. Donc, ce qui veut dire concrètement que les élèves qui arrivent à l'orchestre, pour les plus jeunes, ont 14-15 ans. Et après, ils peuvent continuer en tant que musiciens amateurs. Et du coup, c'est un peu comme les jeux de société. Mais chez nous, c'est de 15 ans jusqu'à 80 ans, je crois, maintenant, pour notre contrebassiste fétiche qui s'appelle Jean, voilà.
Entre les différents musiciens, hein, des liens assez intéressants, là, intergénérationnels, non, Cécile Joly?
Ben oui, tout à fait. Moi, j'ai débuté l'orchestre lors de la création et maintenant, voilà, je fais partie un peu des meubles, on va dire. Voilà. Et c'est vraiment très, très, très agréable de tous ces mélanges de générations. Voilà, voilà. Très, très intéressant, oui. Aussi bien pour les jeunes que pour les adultes.
On dirait dans un monde aujourd'hui, dans une société aujourd'hui où il y a un écart très prononcé entre jeunes et seniors, et on est très très vite taxé de seniors finalement, alors que les seniors se sentent de plus en plus pas du tout seniors, et hein, c'est un petit peu ce côté-là. Hein.
Alors j'allais dire, c'est vrai qu'on pourrait même rêver notre orchestre comme une micro-société, parce qu'il y a à la fois l'aspect intergénérationnel, mais il y a aussi l'aspect inter-tout, je dirais avec plein de guillemets, c'est-à-dire qu'on a aussi c'est une micro-société qui est représentée, que ce soit d'un aspect communautaire, religieux, voilà. Et en fait, il n'y a jamais aucun problème. C'est-à-dire, c'est vraiment des aspects qu'on aborde très peu dans l'orchestre, tant on voit qu'il n'y a pas de problème à être ensemble, en fait, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu dont on vient. En fait, c'est vrai que la musique, c'est aussi un lien entre tous ces gens, et le fait d'élaborer aussi des projets ensemble, c'est ce qui crée de la richesse. Et comme vous le disiez, c'est vrai que c'est aussi maintenant des fonctionnements très différents entre les plus jeunes et les moins jeunes. Et du coup, c'est un vrai lieu de partage de toutes ces manières de vivre à l'heure actuelle, en fait.
Et si vous me permettez, je rajouterais même universel, puisque la musique n'a pas de frontières, bien évidemment. Alors, on va essayer de présenter peut-être effectivement les 30 ans, hein, ce que vous avez concocté. Je pense que ça doit répéter très très grave là en ce moment.
Alors, il se trouve que l'orchestre a la chance d'avoir comme marraine Marie Charvet, qui est professeure au Conservatoire National Supérieur de Lyon, donc vraiment une personnalité du monde musical, qui est vraiment une personnalité aussi à la fois prestigieuse sur le plan musical, mais humainement vraiment exceptionnelle, et qui a tout de suite répondu à l'appel des 30 ans en disant « mais oui, bien sûr, je serai là avec vous ». Et elle nous fait le plaisir d'interpréter les 4 saisons de Vivaldi. Qui est une œuvre ô combien universelle, là aussi, je crois, vraiment, qui est un peu dans la culture de tout le monde. Et du coup, le programme qui s'est construit autour, puisque les 4 saisons, ça n'est qu'une partie, c'est effectivement prendre cette idée du temps, des saisons. Donc, c'est des pièces extrêmement variées qui vont de Yann Tiersen, Michel Legrand, des extraits de La La Land, en fait. Et puis des choses beaucoup plus classiques, j'allais dire sérieuses entre guillemets, mais tout est sérieux, du Puccini, du Schubert, mais c'est toutes des pièces qui ont comme point commun l'idée des saisons et du temps, voilà.
Courez-y vite. Cork d'Encalade fête ses 30 ans, l'orchestre attaché au conservatoire de l'agglomération VBS, ses musiciens élèves vous invitent le samedi 21 décembre à l'atelier à une valse des 4 saisons. Ne manquez pas de vous inscrire, eloasso.com, et sans oublier le corps d'encalade Facebook. Fin de notre édition, n'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.